construire ma vie en chantant. Si j'avais su bien avant que le prince charmant n'était juste qu'un gros feignant, échanger une couche, tu trouverais ça suffisant pour cet enfant. Te réveille maintenant, je t'ai mis un vent. Un nouveau combat pour toi, l'homme fort, le guerrier, et un moyen de me contrôler. Ce qui te motive, c'est surtout ton porte-monnaie et ta fierté. Tu t'adresses à tous les médias en chouinant. Dur d'être un homme aujourd'hui, on est les victimes de cette société matriarcale. Ces discours puants, on les entend trop souvent, plus pour longtemps. Propriété, oh, on va tout casser. Si vous touchez encore aux droits des femmes, c'est nos luttes, nos batailles.
Salut, vous êtes sur Radio Canu, il est 13h et quelques, et on va faire une émission spéciale aujourd'hui qui va être sur le masculinisme, ou plutôt contre le masculinisme. On a pour cela, on va faire cette émission du coup avec le collectif Stop Masculinisme qui vient de Grenoble. On est avec du coup Yannick, Adeline et Sylvain. Merci à vous d'être venus du coup. Pour annoncer, peut-être du coup on va le dire tout de suite, voilà, parce que du coup on va faire une émission d'une heure ensemble, et puis après ça vous serez du coup à une rencontre-discussion à la librairie Terre des Livres à partir de 15h, voilà, du coup si vous êtes intéressé par cette émission vous pourrez rencontrer tout le monde après. Voilà, du coup on a commencé, peut-être juste un petit mot, le morceau qu'on a écouté au début, là, si vous pouvez préciser ce que c'est un détournement donc, de Daniel Balavoine.
Ah oui, c'est un chant de la chorale féministe de Grenoble qui s'appelle La Choraleuse, et qui décrit un peu qui sont les masculinistes, et on s'est amusé à réécrire, oui, Daniel Balavoine, qui est quand même un auteur qu'on pourrait qualifier de masculiniste. En tout cas, au moins cette chanson, elle est vraiment sur le thème des droits des pères, très gratinée.
Voilà. C'est ça, ouais, qui est souvent reprise. Ouais. Et ben justement, du coup, pour commencer cette émission, est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que le masculinisme, qui sont ces gens-là, et puis d'où ça vient pour tous les gens qui nous écoutent et qui connaissent pas, qui ont peut-être jamais entendu parler de ça.
Bonjour à tout le monde déjà, et merci de nous avoir invités sur les ondes de Radio Canu. Le masculinisme, c'est pour commencer déjà pas l'équivalent du féminisme qui serait l'équivalent pour les hommes, c'est pas du tout ça, puisque c'est un mouvement qui est pas du tout pour l'égalité entre les femmes et les hommes, mais qui est un mouvement hostile à l'émancipation des femmes. Et donc c'est un mouvement d'hommes qui souhaitent conserver finalement leurs privilèges et leur position de pouvoir dans la société, quoi. Et qui du coup développe une vision qu'on nomme androcentriste, c'est-à-dire placer finalement tout le temps l'homme au centre de toute réflexion, de toute analyse. C'est un mouvement qui est apparu au début du XXe siècle, qui va commencer... c'est un mot qui est apparu au début du XXe siècle, Mais le mouvement politique en tant que tel, lui, il va commencer à apparaître dans les années 50, plutôt, aux États-Unis. Et avec, et c'est pas anodin d'ailleurs, des hommes qui vont refuser de payer la pension alimentaire. Donc quelque chose qu'on retrouve encore de nos jours dans le mouvement masculiniste en France. Et puis, ce mouvement-là va vraiment grossir et se développer à l'échelle internationale dans les années 80 et 90, aux États-Unis bien sûr, mais aussi en Europe, en Belgique, en Suisse, en France, au Québec, où il y a un mouvement masculiniste assez fort. Voilà, et du coup, ce mouvement-là va participer pleinement à ce qu'on appelle le retour de bâton, donc qu'on dit aussi backlash, donc ce retour de bâton contre les avancées qui ont été obtenues, notamment dans les années 70, par le mouvement féministe.
Et là, vous parlez donc d'un mouvement comme ça, mais j'ai l'impression que c'est un mouvement très au contour assez flou, avec plein de personnes très différentes dans des pays très différents. Est-ce que vous pouvez du coup présenter, je sais pas, peut-être un peu les différentes tendances qu'il y a au sein du masculinisme, et puis en gros qui y a derrière ce type de discours?
Oui, alors je pense que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui ont sûrement en tête, depuis février 2013, les fameuses occupations de grues à Nantes, avec ces deux pères du coup qui ont occupé ces grandes grues jaunes pendant plusieurs jours. Et puis ça a été un petit peu en France du coup le signal de départ, ou du moins la mise sous les feux des projecteurs de ce mouvement masculiniste. Donc cette branche-là du mouvement masculiniste, c'est... la branche plutôt des droits des pères, quoi, de la cause des pères. Du coup, avec des hommes divorcés qui, considérant leurs enfants comme leur propriété, digèrent un petit peu mal ce qui s'est passé et du coup revendiquent la garde de leurs enfants et utilisent du coup des actions très très médiatiques, des espèces de coups médiatiques comme ça. Et on l'a vu, du coup, en février 2013, ont bénéficié d'un soutien des médias et de la classe politique quasi instantané et très très fort, quoi. Donc voilà, ça c'est plutôt pour ceux qu'on appelle nous les pères perchés, qui sont ces gens du mouvement des droits des pères. Il y a aussi tout un tas d'associations qui souvent fonctionnent un peu en groupe de pression. Alors parfois ce sont des associations qui participent à la cause des pères, mais pas seulement. Et puis, au-delà de ces associations, il y a tout un tas de groupes qu'on pourrait qualifier plutôt de thérapie personnelle, de développement personnel, qui sont en tout cas des groupes de renforcement pour hommes. On peut citer par exemple les Nouveaux Guerriers ou le Réseau Homme, qui a une branche en Rhône-Alpes avec un groupe sur Lyon, par exemple. Voilà, et puis pour terminer, il y a un petit peu des vedettes, quoi. Malheureusement des vedettes, et puis qui sont un peu les maîtres à penser de ce mouvement masculiniste. Alors il y en a des très célèbres en France. On peut citer par exemple Éric Zemmour, qui est l'auteur...
présent sur tous les médias, lui.
Qui est très très présent dans les médias, et qui est l'auteur, entre autres, d'un bouquin qui s'appelle Le Premier Sexe. Voilà, qui nous explique qu'il y en a un petit peu marre d'analyser cette société toujours en parlant des femmes, et que les hommes, c'est pauvre, tout ça. Donc voilà, Éric Zemmour. Et puis, on peut citer, bien évidemment, le triste Alain Soral, auteur d'un bouquin qui s'appelle Sociologie du dragueur vers la féminisation, donc qui a beaucoup répandu ce concept de féminisation de la société, sur lequel on pourra peut-être revenir un peu plus tard. Et puis après, un peu plus loin, du coup, on a dit au Québec, il y a un mouvement masculiniste assez fort. On peut citer Guy Corneau, qui est du coup un psychanalyste, qui est auteur d'un bouquin qui s'appelle « Père manquant, fils manqué », donc au titre assez éloquent, et qui est le créateur, du coup, à l'échelle internationale du Réseau Homme, et un psychologue et sexologue, et ça fait assez mal de dire que cet homme-là est sexologue, puisque ça veut dire qu'il donne des conseils à des couples, qui s'appelle Yvon Dallaire, et qui est, par exemple, la personne qui nous explique que dans le cas de violence conjugale, il s'agit d'une schismogénèse complémentaire, c'est-à-dire que...
c'est-à-dire, oui.
C'est-à-dire que les deux sont responsables, hein, finalement, il s'agit d'une interaction, et il faut arrêter de voir tout le temps les hommes comme des bourreaux, et les femmes comme des victimes. C'est une version très éculée de la société, des rapports hommes-femmes. Donc des personnes plus ou moins dangereuses.
Oui, c'est ça, c'est un thème qui revient très souvent du coup dans le masculinisme, c'est d'inverser un peu d'inverser un peu les rôles, d'inverser un peu le discours et de dire bah, finalement c'est pas les femmes les victimes, c'est nous les hommes qui serions les victimes. Et c'est un peu l'espèce de fond de commerce de tous ces gens-là, non, c'est ça. Et ce qu'on peut dire aussi peut-être en point commun pour dire un peu leurs idées, c'est en gros le truc qu'on retrouve à chaque fois, c'est le côté anti-féminisme et dire que le féminisme serait allé trop loin et de critiquer. Tu parlais de cette féminisation de la société, c'est un des thèmes, je crois, qui revient assez souvent, non, c'est ça?
Ouais. Tu veux vraiment pas parler?
Non, mais oui, c'est ça. Ce qu'on peut dire pour compléter, effectivement, c'est que nous, notre définition du masculinisme, parce qu'il fallait bien un peu définir les termes et s'entendre dessus, c'est effectivement un mouvement politique réactionnaire caractérisé par cette idée que les femmes, les féministes sont violentes et sont allées trop loin, et les hommes sont aujourd'hui victimes. Donc, comme tu dis, cette rhétorique de l'inversion des rapports de force et de domination, cette obsession de la victimisation des hommes, et voilà quoi.
Parce qu'après, aussi, j'ai l'impression, c'est quelque chose dont vous parlez assez souvent là, dans le livre là, que du coup vous avez écrit collectivement, là, dont on peut déjà l'annoncer, qui s'appelle Contre le masculinisme. Vous avez intitulé sous-titré du coup Guide d'autodéfense intellectuelle. Il y a aussi un point sur lequel vous insistez assez souvent, qui est cette façon qu'a le discours masculiniste de d'essayer de brouiller un peu les cartes et de alors d'un côté où il y aurait des personnes, alors j'ai l'impression surtout au Québec, vous me dites si je me trompe, qui sont dans un discours là pour le coup vraiment très caricatural, quoi, à dire féminisme égale nazisme ou des choses de ce genre-là. Et puis de l'autre côté, il va y avoir des gens qui vont avoir un côté oui, mais on n'est pas hostile forcément au féminisme, mais en même temps, quand même, elles vont trop loin, etc. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de truc qui, moi, me fait penser un peu à ce qui se passe dans l'extrême droite de façon générale aujourd'hui en France, où on a des gens comme ça qui essayent un peu de brouiller les cartes et du coup d'avoir un discours qui est bien plus pervers et qui arrive à être plus à mieux passer du coup dans la société. J'ai cette impression là, non?
Ouais, tout à fait, c'est effectivement un parallèle qu'on essaye de faire souvent pour être compris et assez clair dans notre analyse du masculinisme. C'est que on fait le parallèle avec le racisme, et là ça devient très clair. C'est que par exemple, comme il y a assez peu de gens en France qui se revendiquent racistes, il y a de la même manière pratiquement aucune personne que nous on assimile au mouvement masculiniste qui va dire oui je suis masculiniste, je suis pour la réaffirmation des privilèges masculins, voilà. Et effectivement, il y a ce même mécanisme à l'œuvre depuis un certain nombre d'années de retournement de sens, en tout cas on va prendre des termes et on va prendre des systèmes de domination et les inverser, les retourner tout simplement. En ce qui concerne le racisme, on l'a vu avec cette histoire du racisme anti-blanc, par exemple, qui était un terme, une notion, un concept qui était porté uniquement par l'extrême droite il y a quelques années et qui maintenant est employé assez largement. Et ben voilà, on a affaire à la même chose en ce qui concerne le masculinisme, avec par exemple des gens dont Patrick Guillot, qui est cette personne qui anime le groupement d'études sur les sexismes, qui par ailleurs réside pas très loin d'ici, et qui du coup va militer contre ce sexisme anti-homme qui serait très très présent dans la société de nos jours, avec par exemple en développant l'idée que il y en a marre vraiment de parler des violences conjugales uniquement tout le temps de la même manière, c'est-à-dire avec les femmes victimes et les hommes auteurs des violences. Et du coup, il milite par exemple pour prendre des fonds qui seraient alloués à la lutte contre les violences conjugales, puisqu'elles ne seraient qu'à destination des femmes, pour pouvoir qu'on puisse un peu penser à ces pauvres hommes qui maintenant sont victimes de ce sexisme anti-hommes. Et donc effectivement, c'est un retournement de sens, c'est une façon de victimiser les hommes qui est particulièrement dangereux, parce que particulièrement séduisant, quoi. Enfin, c'est triste à dire, mais les institutions tombent dans le panneau en fait assez souvent dans ce genre de discours.
Parce que justement, pour les institutions, est-ce qu'il y a, quel poids ils représentent du coup ces gens-là dans les institutions? Je veux dire, c'est un lobby qui a de l'influence, par exemple, je pense au niveau du Parlement ou des choses comme ça, ou dans les grands médias.
C'est globalement, de toute manière, c'est un mouvement assez large. Il y a aussi, on parle pas. Là, on a surtout parlé des personnes qui sont un peu en vitrine de ces théories et de ces pratiques-là. Mais il y a aussi le mouvement de base, si on peut dire ça comme ça, les militants de base qui sont pour le coup un peu Monsieur Tout le Monde, qui se retrouvent dans certaines associations, dans certains groupes. Et du coup, là, on a vraiment affaire à des discours qui soit ressemblent à ce qu'on a décrit là, très réactionnaire, très revendicateur, etc. Mais on a aussi tout un mouvement arrière, entre guillemets, une base arrière qui est présente dans les associations, dans effectivement des groupes de pression qui peuvent être soit en direction de la justice pour notamment les associations de droits des pairs ou d'autres groupes de pression qui font effectivement du lobbying. Et sans doute que pas mal de personnalités et théoriciens masculinistes sont présents effectivement aussi dans les sphères de pouvoir. Mmh. Et du coup vont pouvoir influer sur à des moments même des études de loi au Parlement ou autre quoi. Donc effectivement là-dessus, là il y a vraiment une vigilance à avoir quoi. Mmh.
Et puis on a des institutions qui sont séduites en fait, comme je le disais, ouais, qui tombent dans le panneau en fait de ce discours masculiniste sous couvert de vouloir faire original, c'est-à-dire que des institutions qui ont pour but de lutter contre les discriminations se disent tiens, ça fait 10 ans, 20 ans qu'on a essayé de lutter à ce niveau institutionnel là contre les discriminations faites aux femmes par exemple, et se disent bingo, on va faire original, puisque là, on a un groupe qui nous propose d'avoir un discours qui concerne les hommes. Et du coup, la naissance du collectif, par exemple, est due à ce phénomène-là, c'est-à-dire qu'il y a eu à Grenoble, du coup, en présence du réseau Homme, par exemple, qui est une asso que nous, on identifie clairement comme masculiniste, et avec des membres, en fait, de ce réseau-là, la projection d'un film qui a été organisé d'un film masculiniste, d'un documentaire clairement masculiniste qui s'appelle Des hommes en vrai, et qui a été organisé du coup par le service de lutte contre les discriminations de la ville de Grenoble. Voilà. Donc c'est dire à quel point ce discours-là peut être relié. Et puis un autre exemple tout simple en fait, c'est que je citais tout à l'heure l'action des grues à Nantes. Mmh. Bon, deuxième jour d'occupation des grues, le préfet de Loire-Atlantique se déplace et passe un coup de fil de manière personnelle au président du tribunal administratif pour faire avancer le dossier de Serge Charnay, qui était un des deux pères qui était en haut de la grue, qui, soit dit entre parenthèses, ne voyait pas ses enfants car il avait été condamné pour soustraction d'enfants avec violence. Donc voilà, c'est des choses qui ont mis plusieurs jours à sortir dans les médias. Mais on a là un préfet qui se déplace, qui passe un coup de fil du coup au président du tribunal pour faire avancer un dossier. Et nous, ce qu'on a dit par exemple dans un tract qu'on a sorti à l'époque, c'est imaginons des opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui auraient fait la même action, c'est-à-dire occuper une grue. Essayons d'imaginer quelles auraient été les réactions des institutions et des forces de l'ordre. Probablement pas la même. Probablement pas.
Probablement, oui. Et puis, peut-être ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ne sont pas très très nombreux, les militants activistes, les purs et durs qu'on voit sur tout édifice à escalader. Là. Les membres de la Grue Jaune, par exemple, ils sont peut-être, on va dire, une trentaine à escalader des choses en France et sur une vingtaine d'actions, donc c'est souvent les mêmes qui font ça. Par contre, ils sont très bien rodés en technique de communication. Ils sont très très bien appropriés le discours vis-à-vis des médias et un petit Larsen et
ouais,
puis
il baisse un peu le
et donc le collectif de la Grue Jaune là qui a participé à toutes ces actions pendant un an en France, c'est pas beaucoup de gens. Par contre, ils sont assez forts en communication et le lobbying qui est fait aussi par les associations de droits des pères, SOS Papa et compagnie, ça c'est quelque chose qui fonctionne bien, qui est bien rodé aussi depuis une quinzaine d'années quoi. C'est-à-dire que effectivement ils font pression sur les législateurs, les sénateurs, les députés pour des lois passent, ou en tout cas pour faire valoir leurs intérêts quoi, et défendre leurs intérêts. Et là, il y a aussi danger, parce que effectivement, ils sont en avance sur les anti-masculinistes en termes de maîtrise du technique de lobbying et de médiatisation, quoi.
Et est-ce qu'on peut pas dire que si ce discours passe aussi bien, c'est finalement c'est un peu le masculinisme aujourd'hui, ce serait un peu l'avant-garde militante ou plus extrême finalement d'un discours sexiste ambiant qui est largement dominant dans la société et que le masculinisme ferait que porter finalement à son niveau le plus radical et le plus militant.
Mais en fait, ce qu'on explique aussi des fois quand on vient présenter le travail qu'on a fait sur cette question-là, c'est que le masculinisme est une des manifestations de ce qu'on peut appeler l'antiféminisme de manière plus générale. Et effectivement, ça fait partie des idées et des discours sexistes ambiants, du discours dominant en tout cas, sur les questions liées au rapport homme-femme, questions d'égalité, etc. Et je ne sais pas si c'est son niveau le plus élevé, mais en tout cas, c'est une voie par laquelle on peut faire passer des idées antiféministes et qui, finalement, sont pas si nouvelles. Enfin, ça a toujours existé et c'est une des manifestations de l'antiféminisme, en tout cas. Mmh.
Puis ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, ça se s'insère dans un contexte idéologique général que nous, on analyse comme plutôt réactionnaire, quoi. Et avec, comme on l'a dit sur d'autres plans, une inversion des rôles, une inversion des systèmes de domination, une inversion de sens général, ça devient parfois très difficile de faire de la politique ou de comprendre, en fait, simplement comprendre, en fait, des notions de politique aujourd'hui. On est parfois complètement perdu, quoi. On le voit à l'œuvre en ce qui concerne le masculinisme, mais on le voit à l'œuvre aussi sur d'autres plans politiques. C'est l'inversion, comme je disais tout à l'heure, avec une victimisation des dominants, quoi. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose de général, j'ai l'impression, dans la société aujourd'hui. On le retrouve, en fait, sur bien d'autres plans que le masculinisme. Et du coup, moi, je dirais plutôt que le masculinisme, c'est la version rapports sociaux de sexe d'un phénomène général comme ça, d'inversion de sens, qui nécessite du coup un travail de reclarification, quoi.
Mais sur des thématiques un peu spécifiques, on en parlera après la pause musicale.
Voilà, tout à fait.
Mais en tout cas, l'idée, c'est aussi de dire, c'est des mouvements qui sont assez classiques, entre guillemets, dans le sens où quand il y a des revendications de la part des personnes qui subissent des oppressions, qui subissent une discrimination spécifique, là, on a en face, forcément, les personnes qui sont plutôt celles qui ont des privilèges, qui vont tout de suite lever le bouclier et dire « Attention, on est victime d'agression, quoi, d'agression », alors que, en fait, c'est des mouvements qui sont porteurs, émancipateurs, mais qui effectivement dérangent ceux qui ont à perdre dans cette bataille. Voilà.
D'accord, eh ben, on va faire une petite pause musicale et puis on va continuer sur ce thème-là. Une petite pause du coup avec un morceau qui est bien dans le thème d'un groupe anglais qui s'appelle Goods Robe et un morceau qui s'appelle Féminazie et qui reprend du coup, qui critique du coup cette espèce de mot un peu fourre-tout, voilà, qui est utilisé par les masculinistes pour critiquer le féminisme. Allez, on s'écoute donc ce morceau tout de suite. Hanging out, disrupt the conversation. Voilà, c'était donc un morceau de Gutsrobe, très court, mais donc on revient à notre discussion avec le collectif donc Stop Masculinisme. Et peut-être bah, justement, du coup, vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous avez commencé vos activités. Voilà, je crois que tout à l'heure vous parliez d'un film notamment qui avait lieu à Grenoble, c'est ça ?
Ouais, alors très vite, oui, on a commencé à se retrouver après avoir vu un film qui s'appelle Des hommes en vrai, un film documentaire où des hommes successivement se plaignent de ce que leur font subir les femmes, leur mère, leur ex, les féministes. Bon, sans aller dans les détails, on a été un peu atterré par ce qu'on entendait et la soirée, dans la manière dont elle s'est passée. Et les gens qui étaient là, on était un petit groupe de camarades. On s'est dit qu'on n'allait pas laisser passer ce truc-là et qu'on allait se renseigner un petit peu sur les idées qui étaient véhiculées par les associations et les groupes masculinistes et qu'on allait interpeller, par exemple, la mairie de Grenoble, parce que comme disait Sylvain, c'était la mairie de Grenoble qui avait voulu organiser cette soirée. Et on a commencé donc ce travail de veille, d'information et d'interpellation de soit des institutionnels, soit plus largement des acteurs de la vie politique locale ou associative ou quoi. Et ça s'est traduit, ce travail-là, par un exposé qu'on a fait à plusieurs reprises. On a écrit un texte un peu plus long qu'on a mis en brochure et qui sort aujourd'hui, enfin qui est sorti il y a un mois.
Voilà, donc le livre contre le masculinisme.
Voilà, sous forme de livre. Et l'idée, c'était vraiment de faire un travail de synthèse, un travail un peu didactique pour essayer de comprendre ce qu'est le masculinisme, qu'est-ce qu'ils racontent les masculinistes et comment on peut les contrer, les combattre. Et puis, par ailleurs, on a fait ce travail militant là un petit peu d'essayer de voir quand les associations sur Grenoble avaient des événements, enfin organisaient des événements, et puis on allait une fois ou deux ou un peu plus tracter, discuter, interpeller les personnes qui étaient intéressées par le discours de ces associations là et c'est quelque chose qu'on a envie de continuer à faire. On n'est pas très très nombreux nombreuses, mais on a envie de pouvoir régulièrement montrer aux masculinistes qu'on les a à l'œil, quoi.
Alors, vous êtes combien, justement?
Des milliers.
Des milliers, voilà.
Des centaines de milliers. Non, mais par exemple, en octobre, il y a eu un happening, encore une fois, des masculinistes, plutôt la branche droit des pères, on monte sur des grues. Et donc, il y a eu une mobilisation contre cet événement qui s'est organisé en peu de temps et qui a permis de rassembler quand même pas mal de camarades féministes et au-delà des réseaux féministes, des féministes radicaux, enfin du féminisme radical, quoi. Mmh. Et c'est ce truc de mobilisation qu'on a envie quand même de pouvoir continuer de porter un peu.
Parce que justement, peut-être du coup pour les gens qui vous connaissent pas, si vous pouvez expliquer alors assez brièvement, quelles sont un peu du coup vos bases théoriques, d'où vient votre discours, quoi, en gros un peu quels sont les fondements de vos bases théoriques.
Alors nous, c'est sûr que nos bases théoriques, c'est le féminisme radical, matérialiste, comme on dit dans notre jargon. En tout cas, il se base sur une analyse des rapports de domination, et donc des rapports de domination des hommes sur les femmes. Et nous, on part de là, avec une analyse féministe, en fait, une grille de lecture du monde qui n'est certainement pas celle de Zemmour. Et on a écrit à partir de ça. Alors, on a quand même fait un effort de traduction et de vulgarisation, comme on dit, pour expliquer un peu quelle était notre vision du féminisme et des rapports sociaux de sexe, comme on disait tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on est parti de ça et on a voulu un peu creuser ces questions-là sous cet angle-là.
D'accord. Et petite question aussi, toute bête, mais vous êtes dans un fonctionnement du coup non mixte, c'était quelque chose d'important pour vous ou c'était quelque chose qui allait de soi, enfin...
Mixte, du coup.
Oui, mixte, oui, oui. Voilà, effectivement. Merci de me corriger.
Oui, on est en mixité, et donc on est des garçons et des filles dans ce groupe. Et effectivement, je sais pas si c'était important pour nous, ça s'est fait comme ça en fait à la base. On était plusieurs à cette soirée là qui a été un peu le début du collectif. Après, il nous est arrivé de dire plusieurs fois que c'est pas si simple que ça, de travailler sur ces questions-là en mixité. Pour moi, en tout cas, c'était un renouveau. Par exemple, personnellement, je crois que pendant plusieurs années, j'ai un peu fui de travailler des questions féministes en mixité parce que je trouvais que c'était vraiment très difficile. Après, ça m'a redonné envie, en tout cas, d'être dans des pratiques plus proches et dans des réflexions plus proches avec des camarades garçons, si la condition, c'était justement de partir sur des bases féministes claires et qu'il n'y aurait pas des enjeux de justement lever le bouclier à chaque fois qu'on parle de questions dérangeantes. Ça s'est plutôt passé... relativement bien entre nous, même si évidemment c'est jamais facile et ça me permet de dire plus généralement quand on travaille sur les questions de masculinisme ou d'antiféminisme, forcément il faut aussi qu'on balaye devant notre porte et ça tombe bien d'être à Radio Canu aujourd'hui parce que je crois que on aurait vraiment intérêt à discuter du masculinisme et de l'antiféminisme en s'incluant dans les réflexes qui peuvent exister dans nos groupes, dans nos collectifs militants ou dans nos espaces, parce que le masculinisme, c'est pas seulement au Québec ou sur les grues, quoi. C'est aussi dans nos groupes et voilà.
Oui, c'est ça. Mais du coup, c'était un peu la chanson La Féminazie, où c'est des expressions qu'on retrouve dans la bouche de personnes et dans des milieux où on n'a pas envie de les entendre. Pour parler un peu du coup de vos types d'actions, là, donc vous avez sorti ce livre là qui a repris une brochure déjà qui était sortie l'année dernière. J'aime bien ce sous-titre sur lequel je voulais vous interroger. Du coup, guide d'autodéfense intellectuelle. C'est-à-dire que du coup, je crois qu'à un moment vous expliquez ça, vous employez cette expression, voilà, repérer et démonter les discours masculinistes. Voilà, c'est ce qui définit du coup votre démarche, un côté assez pédagogique, expliquer ce que c'est, quelle figure ça prend et comment contrer ces discours.
Bah oui, comme je le disais, comme ce mouvement a quand même pour outil principal de brouiller les pistes et de retourner le sens, le but de ce livre est de redire, par exemple, des choses de base, comme redire des réalités sociales, quoi. Ce qui paraît parfois des évidences à tous, en fait, mais quand on a en face de nous des hommes qui nous disent les violences conjugales, les femmes plus victimes, pas du tout, les hommes autant, voire plus, et puis qui après argumentent de manière complètement, en fait, c'est incompréhensible, bon, ils citent évidemment jamais de chiffres, ou alors ils me disent que oui, mais si on n'a pas de chiffres, c'est parce que les hommes ont honte, ils ne vont pas porter plainte, et puis on ne prend pas en compte les violences psychologiques, dont on sait que les femmes, virgule, ces manipulatrices, sont beaucoup plus, maîtrisent beaucoup plus cette violence-là et tout. Ce livre a aussi pour but de rappeler les réalités sociales, de redire des chiffres, en fait, quand on a des personnes qui nous disent les hommes sont aussi victimes de viols et tout, on rappelle en fait dans ce livre par exemple 93% des victimes de viols sont des femmes, voilà, des choses comme
la
ça.
La réalité, quoi. Des faits, quoi.
Voilà. Sans toutefois nier des choses qui existent. Par exemple, je parlais là juste avant d'un sujet pas drôle qui est le viol. Ce livre-là et le travail qu'on a fait n'a pas pour but de dire aucun homme n'est jamais victime de viol, en fait, ou aucun homme n'est jamais victime de violence. C'est pas du tout ça le but. Effectivement, ça existe, donc on reconnaît, et on veut bien même le reconnaître quand on a une discussion avec certains militants masculinistes. Ce qu'on cherche à faire, c'est à les pousser dans leur argumentation, en fait, à ce qu'eux nous expliquent, du coup, comment eux expliquent cette situation. Et nous, on a nos réalités sociales en face, et on peut les rappeler et on peut les redire. C'est-à-dire que, par exemple, quand les hommes sont victimes de violences, c'est dans l'écrasante majorité des cas d'autres hommes qui sont auteurs de ces violences. Voilà. Les masculinistes s'arrêtent souvent, très très souvent, à l'étape numéro 1 de la description. Oui, mais les hommes sont plus victimes de violences que les femmes. Donc on entend les hommes sont plus victimes de violences, et puis si on est un petit peu de mauvaise foi, on peut même entendre, donc si les hommes en tant que groupe social sont plus victimes de violences, c'est peut-être bien l'autre groupe social du coup qui en sera responsable, quoi. Donc c'est peut-être bien les femmes, quoi. Et du coup, nous, simplement, voilà, ce bouquin, effectivement, il a l'idée de départ, en fait, c'est d'être pédagogique et de rappeler, en fait, des choses que les masculinistes oublient plus ou moins stratégiquement de dire dans leur discours, quoi.
D'accord. Eh ben, ce que je vous propose du coup, c'est qu'on se fasse une deuxième petite pause musicale et puis que, eh ben, on rentre du coup un peu dans cet argumentaire et contre-argumentaire juste après. Et du coup, ben, on va s'écouter un morceau qui est très court là encore, hein, d'un groupe qui s'appelle Emma Peel. C'est un morceau qui s'appelle Apatriarca et qui date de l'année dernière. Voilà, c'est donc un morceau d'Emma Peel. On continue notre discussion contre le masculinisme et du coup, et ben pour cette troisième et dernière partie, on va peut-être parler un peu plus en détail du coup du livre là que vous venez de sortir, donc contre le masculinisme et des grands thèmes que vous traitez dans ce livre. Alors, vous en signalez surtout trois, quoi. Je vous laisse peut-être les présenter. D'ailleurs, ce sera mieux comme ça.
Oui. Donc effectivement, ils ont trois thèmes de prédilection. Le premier, c'est celui des droits des pères, enfin en tout cas ce que eux ils appellent les droits des pères. Le deuxième, c'est la question des violences et en particulier les violences faites aux hommes, puisque leur théorie de base, c'est de dire qu'on parle pas assez des violences qui seraient faites aux hommes. Et le troisième thème, c'est la dite crise de la masculinité, puisque eux ils estiment qu'il y a une crise de la masculinité. Et voilà, ça c'est vraiment les trois thèmes qu'on retrouve de manière récurrente et qui constituent vraiment le terreau théorique et d'action des groupes masculinistes et des théoriciens aussi, enfin ceux qui écrivent des bouquins et qui se font pas mal d'argent là-dessus. Mmh. Voilà, c'est ça les trois thèmes.
Bon, on peut peut-être commencer du coup par celui dont on a le plus entendu parler ces derniers temps avec les histoires là, des papas sur les grues, qui est l'histoire de la cause des pères. Si du coup, voilà, c'est un peu le thème aujourd'hui principal, on va dire, des masculinistes pour se faire connaître et obtenir un bon écho auprès de la population.
Donc effectivement, on a affaire à des personnalités ou des groupes de pression, des associations, des collectifs. Donc les plus connus, c'est SOS Papa, on a aussi SVP Papa, etc., etc., qui ont pour point commun de dire en cas de séparation ou de divorce, les pères sont lésés, donc n'obtiennent jamais la résidence alternée ou la garde principale des enfants. Il y a une discrimination qui est au fondement là de la fameuse société matriarcale qui serait régie par des femmes juges et du coup des femmes revanchardes qui en veulent à leurs ex et qui veulent à travers les enfants prendre une revanche, etc., etc. Donc ça constitue vraiment le discours commun de base, de dire que donc les pères sont lésés et c'est pour ça qu'ils ont à combattre un système judiciaire et des femmes machiavéliques qui veulent garder les enfants, quoi. Mmh. Donc quand on gratte un petit peu le vernis des pleurnicheries, j'ai envie de dire, de ces hommes qui se plaignent d'être victimes d'injustice, etc. On voit là que il n'est pas étonnant de découvrir que les enjeux sont pas tellement du côté de l'affectif, mais plutôt du côté économique. En tout cas, les motivations principales qu'on retrouve chez ces pères qui demandent la garde des enfants ou une résidence alternée imposée, puisque c'est quand même un des projets qui porte très fort en ce moment et qu'ils essayent de faire passer au niveau de la justice, c'est surtout des motivations pécuniaires, puisque on sait que quand est prononcée une résidence alternée ou une garde principale de l'enfant, il n'y a plus de versement de pension alimentaire. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et voilà, donc nous, on a un peu fait ce travail-là de décortiquer à la fois les discours, d'où venaient les revendications et quels étaient aussi les parcours un peu personnels des pères là qui revendiquent le droit de voir leurs enfants, comme ils disent. Et donc, on découvre quand même que là, on est dans des enjeux un peu classiques de retour de bâton, soit économique, donc effectivement des pères qui veulent pas payer les pensions ou en tout cas être avoir moins d'argent, etc. Soit carrément aussi, et ça va souvent de pair, et on voit qu'il y a des enjeux de pouvoir là-dedans, c'est-à-dire ne pas perdre le lien avec l'ex-conjointe ou l'ex-compagne, que là, s'il y a, enfin, à travers l'enfant, il peut continuer à avoir une prise sur la vie de l'autre, ce qui est aussi intéressant. Voilà.
Puis là, pour le coup, c'est peut-être le thème qui les a rendus un peu, ce discours un peu populaire qui a bien marché dans les médias. Enfin, au moment où il y a l'histoire des papas sur les grues, tout le monde en parlait dans les grands médias et en termes plutôt positifs, quoi. Parce que j'ai l'impression que du coup, là, on parlait tout à l'heure de la façon dont ce discours pouvait s'avancer un peu masqué, ou en tout cas en essayant de brouiller les cartes, etc. J'ai l'impression que vraiment sur ce thème-là, c'est là où c'est le plus flagrant, en jouant à la fois sur un côté, bah oui, on veut que les pères s'impliquent plus dans la vie de l'enfant, et difficile de dire que c'est pas une bonne chose, sauf que c'est en oubliant, je voudrais vous faire agir du coup là-dessus, en oubliant du coup pour dire clairement ça, qui réclame l'égalité, mais dans le cadre et le contexte d'une société qui est inégalitaire. J'ai un peu l'impression que c'est là où il joue sur cette espèce de décalage, quoi. Enfin,
Surtout, en fait, nous, ce qu'on aime bien rappeler en premier lieu, c'est que derrière la façade revendicatrice qui dit « on est toujours lésés, les enfants sont toujours en résidence chez la mère, nous on n'obtient jamais la garde, etc. » Il faut quand même rappeler, et ça c'est pas nous qui l'inventons, il suffit de regarder les procès-verbaux de tribunaux ou de regarder les chiffres qui existent sur cette question-là, c'est que dans plus de 80% des cas, oui effectivement l'enfant est chez la mère, mais à la demande des deux parents. Donc en fait, les pères s'arrangent quand même assez bien avec le fait que ça soit encore les mères qui assument les tâches principales de soins aux enfants et de suivi des enfants. Donc ça, c'est une première chose. Et après, quand il reste des cas de litige, de désaccord entre les personnes qui se séparent autour des enfants, c'est pas tellement sur le lieu de résidence de l'enfant, mais encore une fois, là, sur les questions de pension alimentaire, on a entre 3 et 5% de cas de vrais litiges, où là, les gens restent longtemps en justice, se livrent des batailles assez dures, etc. Et ces désaccords, ils résident surtout sur les questions de montant de pension alimentaire. Donc en fait, on est loin quand même du phénomène de société que nous présentent les Serges et autres pères perchés, qui consisterait en une grande injustice, les pères qui ne sont pas écoutés, qui sont privés de leurs enfants, enfin voilà quoi. Nous, on serait contents s'il y avait un vrai mouvement social de pères qui réclamait d'être responsable et de prendre en charge à 50% leurs enfants. Ça voudrait dire que le féminisme a un peu avancé.
Voilà. Ouais, c'est ça. Par exemple, quand ils ont fait des actions à Grenoble, ils avaient une énorme banderole égalité parentale. C'est un de leurs slogans, en fait, égalité parentale. Donc attention avec cette revendication d'égalité qui est, enfin, évidemment, est assez plaisante comme ça. Et que répondre à ça, en fait, à des personnes qui demandent l'égalité parentale? Effectivement, on peut de prime abord que être d'accord. SOS Papa se revendique comme féministe dans une interview accordée peu après les actions sur les grues, en fait, parce qu'ils disent mais nous on est pour l'égalité entre les parents, donc on est féministe. C'est une association qui dispense des conseils judiciaires à l'aide d'avocats, en fait, pour des pères, y compris violents, pour qu'ils passent à travers les mailles du filet de la justice, quoi. Ils arrivent à se dire féministes, bon. Comme le disait Adeline, en fait, si ces hommes-là étaient égalitaristes, ils s'engageraient en dehors des cas de divorce pour l'implication des pères, en fait. Et c'est là, à notre sens, que nous, il est le plus gros du travail, en fait, en termes d'égalité homme-femme, en ce qui concerne le fait de s'occuper des enfants. C'est-à-dire qu'ils s'inquiéteraient, non pas quand ils sont en difficulté et qu'ils sont dans une situation où leur vie change, pour des raisons qui parfois les concernent très personnellement et très, très précisément, et pour lesquelles ils sont responsables. S'ils voulaient vraiment, en fait, changer les rapports homme-femme, comme certains le disent, et si vraiment ils étaient dans une revendication égalitaire, il se prendrait par la main, peut-être effectivement entre hommes ou pas, mais il se mobiliserait en tout cas bien avant les situations de divorce et de séparation, et ils essaieraient de faire effectivement évoluer les rapports sociaux, et ils iraient voir des hommes pour leur dire là il faut t'occuper de tes enfants dès maintenant et pas se découvrir père une fois qu'il y a une situation de séparation.
D'accord, et peut-être justement dans l'idée de rappeler un peu les faits, peut-être pour terminer sur ce thème là si contre ce discours-là, rappeler un peu la réalité de l'inégalité du rapport dans le soin des enfants habituel entre hommes et femmes.
Voilà, on est dans les chiffres un peu classiques de tâches domestiques de manière plus générale. Mmh. On sait qu'aujourd'hui, en 2014, il y a encore 80%, voire plus, 80% des tâches domestiques qui sont assumées par les femmes dans les couples hétéros installés ensemble. Les soins aux enfants, ça en fait partie. Et on est quand même loin aussi. Là, ça nous permet aussi d'introduire cette idée-là des nouveaux pères. On est loin du mythe qu'on nous présente par rapport aux nouveaux pères. Enfin, moi je les cherche encore, en fait, les nouveaux pères. Il y en a pas beaucoup et on peut pas dire que ça soit un phénomène massif. Donc nous, ce qu'on a envie de dire, c'est ok, vous voulez prendre en charge des choses, vous voulez prendre vos responsabilités, mais allez-y, quoi. La place, elle est toute faite. Venez, quoi. Venez prendre vos responsabilités et vous occuper des enfants. Nous, on demande que ça. Et les féministes, elles demandent que ça depuis longtemps. Et c'est là où aussi il y a une malhonnêteté intellectuelle sur comment ils parlent des mouvements féministes et des féministes, les masculinistes, qui décrivent comme des femmes avides de pouvoir et qui voudraient garder comme ça sous leurs ailes et les enfants et les affaires dans la maison, qui sont seulement habitées par des motivations de garder le contrôle, etc. Mais en fait, quand même, à un moment donné, il faut remettre les points sur les i. Les femmes qui sont devenues mères ou qui ont des responsabilités parentales, mais elles demandent que ça d'être déchargées, quoi. Elles demandent que ça, que leur conjoint, il se foutent un peu moins les pieds sous la table. Donc, voilà.
Ok, et du coup, on va passer au deuxième thème, qui là, pour le coup, là, on parlait déjà un peu de la manipulation des chiffres, etc., sur ce qui est de le deuxième thème un peu des masculinistes, l'inversion des rôles et des violences dont, soi-disant, les hommes seraient plus souvent, plus fréquemment les victimes que les femmes. Vous pouvez dire un mot, pareil, de ce deuxième thème, qui est peut-être plus facile, à la limite, à contrer en rappelant, pour le coup, la réalité criante des faits, quoi.
Oui, alors comme j'en ai déjà parlé un petit peu avant, effectivement, on va pas trop s'étendre à nouveau sur ce thème-là, mais effectivement, par exemple, il faut citer l'existence d'une association qui s'appelle SOS Hommes Battus. bon, voilà, c'est très parlant comme intitulé, qui en général, comme dans le reste du mouvement masculiniste, base son action dans un premier temps sur l'émotionnel. Donc on a des gens qui font des conférences où voilà, on vient faire parler en tribune un homme qui a été battu par sa femme, c'est une réalité en fait, ça existe en fait, les hommes qui sont battus par leur femme. Voilà, alors vous pouvez pas voir puisque c'est la radio, mais Yannick nous déplie une petite affiche pour une conférence qui était organisée à Lyon le 12 octobre dernier. Les hommes aussi sont victimes de violences conjugales, avec une photo d'un homme assis par terre comme ça, la tête dans les genoux, vraiment prostré, voilà. Avec voilà, un petit peu la crème des masculinistes Ron Alpin.
Bon, voilà, donc et là encore une fois, l'idée c'est pas de dire non, c'est vraiment débile, il n'y a pas d'hommes qui sont victimes de violences conjugales, mais en fait on est toujours dans la confusion de l'épiphénomène qui devient un phénomène social. Mmh. Et ça c'est vraiment dangereux et c'est de la manipulation intellectuelle, encore une fois c'est très malhonnête de présenter les choses comme ça, et nous c'est ça qu'on a envie de rappeler à chaque fois, quoi.
Mmh. Ouais. Oui, c'est ça, parce que cette idée d'épiphénomène, du coup, peut-être pour passer au troisième point, la crise de masculinité, la féminisation de la société, c'est de la même façon que les masculinistes vont dire, oui, bah voilà, ils vont trouver une femme qui a un poste de pouvoir dans la société, ils vont en déduire, et bah voilà, regardez, ça y est, on en a trouvé une ou deux, genre, je sais pas, Laurence Parisot, les gens comme ça, qui est dire, bah voilà, du coup, toute la société est dominée par les femmes et on serait dans ce qu'ils appellent un matriarcat. Si vous pouvez en dire un peu plus du coup là-dessus, c'est encore ce thème là qui surfe du coup sur la crise de la masculinité.
Et ben voilà, donc selon les masculinistes, mais pas que, en fait, Télérama faisait un dossier, enfin en une, il y a pas si longtemps, en fait, c'était marqué en couve, quoi, la crise de la masculinité. Enfin, c'est quelque chose qui est largement partagé. Donc c'est cette idée que les hommes, en tant qu'hommes, sont en perte de repères. Ils sont perdus, là, voilà. Donc, il y a eu le féminisme, ça les a, mais alors vraiment secoués.
Laminés.
Et du coup, ils ont besoin de repères positifs masculins, parce qu'ils sont perdus. Donc, après, il y a un peu différentes tendances là-dedans. Les Zemmour et les Soral vont taper du poing sur la table et vont dire. Ça va bien maintenant, le féminisme, on siffle la fin de la récré et on réaffirme de manière très virile, très physique, très agressive notre position de dominant dans la société. Et on va pas s'excuser d'être des hommes, ça va en fait, c'est comme ça, nous sommes le premier sexe et alors et puis on va avoir une autre tendance, donc par exemple le réseau homme, qui vont être, on avait commencé à l'aborder un petit peu tout à l'heure, mais qui vont être ces hommes plutôt qui ont retenu un certain nombre de leçons du féminisme, qui ont compris que remettre en cause, quand on est un homme, un certain nombre de rôles très genrés peut être profitable, en fait. Voilà, peut nous apporter une vie plus épanouie, voilà, un développement personnel qui est accru. Ça paraît très séduisant, encore une fois, là, ce discours-là, de ces groupes de parole qui vont se dire, non mais attendez, entre hommes, là... Eux disent du coup, partent du même principe, il y a une crise, mais eux ne vont pas avoir du tout la même réponse. Ils vont dire, il faut qu'on redéfinisse l'identité masculine. Il faut qu'on aille vers une identité masculine qui, on ne veut plus être, c'est papa, c'est fini, là, on veut pas être comme nos pères. On veut être sensible, on veut être proche de nos enfants, on veut être en capacité d'exprimer nos émotions, etc.
Parler avec nos conjointes.
Voilà, être plus dans la communication. Donc voilà, là, Guy Corneau, quand il fait des conférences, la salle est remplie, en fait, de couples qui viennent, parce que voilà, c'est une démarche séduisante. Et voilà, encore une fois, là, il faut creuser un peu pour comprendre et se rendre compte, en fait, que, premièrement, toute analyse au sein de cette deuxième tendance-là, qui est plutôt développement personnel de gauche, entre gros guillemets, premièrement, toute analyse sociale et politique globale, on va dire, des rapports entre les hommes et les femmes est absolument bannie, absolument mise de côté, c'est-à-dire que on est sur du développement personnel, donc on va se centrer uniquement sur des cas individuels, donc on a affaire qu'à des récits comme ça qui sont centrés sur une unité de compréhension très petite, et puis nous, si on arrive dans des discussions avec ces personnes-là pour rappeler des réalités sociales, ça les embête. Les réalités sociales, ça les embête, ça les intéresse pas, c'est plus compliqué que ça pour eux, etc. Quoi. Bon, et tout ça pour dire que, en fait, quand on pousse un peu, on voit que ceux-là ont in fine le même raisonnement que les gros machos décomplexés, c'est-à-dire que si on en est là, c'est la faute des femmes. Et nous, les hommes, on est victimes, quoi. Donc on est en crise et on cherche des repères. Et il va falloir que les femmes arrêtent un petit peu de nous embêter pour que nous puissions nous redéfinir positivement en tant qu'hommes, etc. Donc c'est tout aussi dangereux, tout aussi nocif. Et certains de ces mouvements sont issus des mouvements pro-féministes, notamment des années 70. Donc balayons devant notre porte, effectivement, et restons vigilants.
Et quand on dit que c'est des faux amis, c'est aussi parce que eux, en fait, leur seul intérêt, leur seule préoccupation, c'est le bien-être masculin, le bien-être des hommes, et finalement l'égalité dans la société, la remise en question des privilèges, le fait que les femmes connaissent encore concrètement des discriminations dans plein de domaines, le travail ou autre, ça les intéresse pas trop, en fait. Et du coup, travailler sur soi, sur ses comportements pour être des hommes moins virils, plus doux, c'est peut-être chouette, effectivement, moi je le conseille à tout le monde, à commencer par moi, mais oublier, perdre de vue le fait que c'est important de s'attaquer aux fondements et aux structures du patriarcat et de l'inégalité entre les hommes et les femmes, c'est quelque chose qu'on doit faire, sinon on peut être taxé effectivement de, un peu masculiniste, c'est-à-dire les intérêts des hommes en premier, le bien-être des hommes en premier, et puis basta.
Oui, et puis une autre chose importante, c'est que dans ces groupes, il y a y compris des groupes qui vont pouvoir même dénoncer le patriarcat et dire effectivement on vit dans une société patriarcale, donc qui vont même pas aller jusqu'à accuser les femmes d'avoir marché sur leur plate-bande et du coup d'être victimes du féminisme ou des femmes, mais par contre dans ce qu'ils avancent comme objectif et revendication politique, c'est effectivement la redéfinition du masculin, mais il y a aucune remise en question, ni des rapports sociaux, ni de qu'est-ce que ça veut dire le masculin, en fait. Est-ce qu'on peut en faire vraiment quelque chose de positif, le masculin ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres voies à chercher ? On est toujours dans des recherches effectivement très individuelles et du coup, ça ne va pas très loin parce qu'on retombe très vite dans des systèmes de solidarité masculine, de groupes de parole où on va beaucoup s'apitoyer sur notre sort, nous, les pauvres hommes, même si effectivement n'est pas avancée la question des femmes ou de la responsabilité des femmes là-dedans. Donc finalement, les rapports sociaux, ils changent pas, quoi. Parce que si t'as pas d'analyse sociale, en fait, toi, tu vas rien changer à ton niveau. Enfin, et donc, nous, c'est ça qu'on essaye un peu de rappeler et que, voilà.
D'ailleurs, les hommes qui participent, par exemple, à ces groupes de développement personnel, c'est génial, quoi, parce que c'est des hommes blancs, hétérosexuels, souvent plutôt quarantenaires, cinquantenaires, voilà. Alors c'est quand même fabuleux que du coup, il leur arrive à un moment dans leur vie un petit problème, petit, parce que c'est quand même des gens qui continuent à bien gagner leur vie, à ne pas risquer de se faire agresser dans la rue, de se faire violer, à ne pas être victime de racisme, à avoir un réseau social plutôt développé.
Ils sont dans des positions plutôt dominantes, quoi.
Oui.
Qui sont dans la société dans laquelle on vit, un homme blanc hétérosexuel, quarantenaire, avec plutôt des sous, on se dit bon, doit quand même globalement aller, quoi, dans sa vie. Et là, à un moment, il leur arrive un petit truc, c'est qu'il se pose une question, quoi. Et alors, ça devient, c'est le torrent, quoi, du coup. Et ils sont hyper écoutés, quoi. Et ça, c'est quand même génial. Et du coup, tout ça pour rappeler que quand les masculinistes nous disent on se bat aussi pour les hommes, ou voire même on se bat pour l'égalité, c'est voyons qui ils sont, voyons quelle population ils représentent. Et du coup, ça permet déjà de restreindre un tout petit peu l'analyse et la revendication, quoi. Je pense que c'est important aussi.
Oui, puis du coup, c'est un discours, puis ce sera peut-être la dernière question, parce que après, il y a une rencontre, donc à 15h, à la librairie Terre des Livres. Et puis ça reste tout ça, du coup, dans un discours qui est très bipolaire, quoi. Il y a le masculin d'un côté, le féminin de l'autre côté. Et il n'est pas question, du coup, dans ces discours, qu'on pourrait dire la crise de masculinité, très bien, voilà, mais finissons-en avec cette idée-là. Mais là, pas du tout. C'est pour bien refonder une société. Avec le masculin d'un côté, le féminin d'un côté, et surtout pas remettre ça en question.
Non, ça c'est clair, et c'est intéressant que tu soulignes ce point-là pour terminer, parce que effectivement, ce qu'on n'a pas dit, mais en fait on peut pas tout dire tout le temps, c'est que ces groupes-là qui seraient plutôt effectivement de gauche, qui au premier abord semblent être presque des amis parce qu'ils veulent remettre en cause la question, la virilité, l'autorité paternelle, etc., sont en tout cas, des groupes qui tiennent à fond à l'essence, ce qu'on appelle l'essentialisme des genres, quoi. Vraiment, ils pensent que voilà, le féminin, le masculin, c'est complémentaire, que c'est très important qu'on soit différent et qu'on réaffirme nos différences. Donc les femmes, vous êtes douces, belles, vous pouvez même être fortes, etc. C'est super, mais restez des femmes parce que nous, on aime les femmes. Enfin voilà, c'est aussi des discours qui peuvent être presque séduisants. Et moi, je connais des féministes publiques qui aiment ces hommes-là, enfin, qui trouvent qu'ils sont plutôt des compagnons de lutte parce que en plus ils valorisent la féminité, y compris dans ce que ça peut être d'aliénant, quoi. Mais voilà, ils tiennent effectivement à ces identités-là à travers le prisme de la complémentarité, et on retombe effectivement dans la bicatégorisation, les hommes, les femmes, on est ça et on reste ça, et c'est important parce que chacun a sa place. Donc c'est sûr qu'on n'est pas, il y a pas de queer, quoi, chez les geekornos.
Et oui, voilà. Ce que ça dit, ça aussi, c'est que les choses ont changé un tout petit peu. On a des personnes qui sont plutôt en haut de l'échelle sociale, plutôt dominants, et qui à un moment ont peur. Ils flippent en fait de perdre leurs privilèges, et pour nous le masculinisme, c'est à travers du coup plein de thèmes, comme on l'a dit, que ce soit la cause des pères, que ce soit ce thème des soi-disant violences faites aux hommes, ou de la crise de la masculinité, on a là une réaction de réaffirmation, enfin une réaction de peur et de réaffirmation, quoi, simplement parce que les choses ont un tout petit peu changé. Donc peut-être le conseil, c'est messieurs, détendez-vous, en fait ça va bien se passer, et on est encore loin d'avoir une société égalitaire. C'est plutôt vers ça qu'il faudrait continuer à se battre, plutôt que de flipper dès qu'il y a un demi-truc qui change, quoi.
Eh ben, on va terminer sur ce bon conseil, du coup. Je rappelle, du coup, que, si vous voulez prolonger la discussion et, du coup, rencontrer le collectif Stop Masculinisme, rendez-vous dans, 50 minutes, 3/4 d'heure à la librairie Terre des Livres. C'est 86 rue de Marseille, dans le 7e arrondissement. Voilà, ce sera, du coup, une rencontre-discussion autour, donc, de ce livre, là, Contre le Masculinisme, à partir de 15h. Merci beaucoup, à tous les trois d'être venus parler à l'antenne.
Avec plaisir.
Merci.
Et puis donc on continue la discussion à la librairie Terre des Livres à partir de 15h.
Salut.
Et à bientôt.
Au revoir.
On va se quitter, tiens, avec un dernier morceau là d'un groupe qui s'appelle The Slits, un morceau qui s'appelle Typical Girl, et on parlait justement des thèmes un peu essentialistes. C'est un morceau qui se moque justement de tous ces clichés, et voilà. Et puis nous, restez ensuite sur Radio Canu, il y aura les bandes continues et puis d'autres émissions dans l'après-midi. À bientôt, salut. We're gonna make it.